et notre prochaine invitée, Madame Chloé Saint-Esprit. Et avec elle, nous allons aborder un sujet qui peut être délicat ou selon... Mais on entend très souvent dire que, en parlant des corps noirs, que ça ne convient pas à tel type de danse et tout ça. Alors, nous allons vous parler d'enjeux de morphologie dans l'inclusion des afro-descendants et descendantes dans les institutions scolaires en danse. Madame Chloé Saint-Esprit, bonjour.
Bonjour Henri, merci de me recevoir.
Ah, avec plaisir. Alors, écartons tout de suite. Vous êtes étudiante et interprète semi-professionnelle en danse. Mm-hmm. Vous êtes d'origine franco-camerounaise.
Exactement.
Et vous vous intéressez à la diversité des interprètes et à l'hétérogénéité des corps dans les œuvres chorégraphiques sur les scènes montréalaises, entre autres.
Tout à fait. C'est bien résumé.
Et vous êtes une nouvelle maman.
Exactement.
D'accord. Alors, en fait, je ne savais pas exactement par où commencer et je me suis dit, pourquoi, quel est l'enjeu exactement?
Oui, certainement. L'enjeu, les enjeux, je dirais, mm-hmm. Il y en a plusieurs, dans le sens où on va commencer par le commencement. Il y a une certaine hiérarchie selon ma perception, et je mm-hmm. pense ne pas être la seule à penser de la sorte, mais une sorte de hiérarchie déjà au niveau des danses. Ensuite, il y a également une hiérarchie au niveau des corps. Et bien sûr, quand on fait le lien entre ces deux enjeux, ces deux hiérarchies, mm-hmm. Ça peut bien sûr bloquer des portes à certains interprètes avec une corporéité, donc un corps différent, par rapport aux corps normaux, entre guillemets, qu'on peut voir sur les scènes habituellement. Et bien sûr, quand on parle d'enjeux morphologiques, j'avais fait quelques recherches à l'époque, justement, même dans les cours de tout ce qui est de kinésiologie, d'anatomie. Mm-hmm. On se base sur un modèle de corps, en général, et ce qui fait preuve de peu de diversité au niveau corporel. L'autre point, quand on revient dans la sphère un peu plus scolaire, au niveau de l'enseignement, la transmission, ce préjugé de corps est aussi intégré dans les structures de danse, quelle que soit la formation. C'est-à-dire que on ne tient pas en compte forcément de la morphologie ou des spécificités de la morphologie. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Mm-hmm. Certaines personnes afrodescendantes ont de la stéatopygie. C'est une particularité qu'on retrouve sous une sorte de damas de graisse, en fait, qu'on retrouve sous la fesse. Et dans certains types de mouvements, par exemple des battements arrière ou des dégagés arrière, ça peut bloquer en fait la jambe, ce qui limite en fait la hauteur de la jambe.
D'accord.
Sauf que l'enseignant, comme il est habitué à avoir un certain type de corps attribué par exemple au ballet ou à la danse contemporaine en général, il va s'attendre à ce que ce corps fasse la même chose qu'un autre corps, sans prendre en considération en fait cette particularité. Donc les enjeux sont divers, pour répondre à votre question, monsieur Armand.
D'accord. Et vous parlez de plusieurs types de morphologie. Vous parlez d'hyperlordose lombaire. Et vous avez mentionné tout à l'heure stéatopygie, cuisse développée, etc. Mais vous allez jusqu'à parler de discrimination. Expliquez-nous un peu plus ce que vous entendez par là.
Certainement. La discrimination, alors... La discrimination au corps, et notamment, on va devoir ajouter à cette discrimination l'enjeu de la couleur de peau. Je donne un exemple concret. Si, par exemple, un ou une danseur, une danseuse ou un danseur arrive dans un processus de création où la majorité des personnes sont blanches, on va en général s'attendre à ce que la personne racisée fasse un type de danse plus urbaine. Donc déjà, la discrimination commence là. Ensuite, notamment, il y a toujours aussi cet enjeu de, comme tu es d'origine africaine, tu vas me faire du coupé décalé, tu vas me faire des danses un peu plus traditionnelles ou fais-moi du twerk. D'ailleurs, petit bémol pour le twerk, qui est une danse à la base traditionnelle. Donc il y a tous ces enjeux-là. Et dans une structure aussi, il y a l'enjeu au niveau des discriminations. On va aller avec le côté des quotas. Parfois, un interprète en danse racisée ou d'origine ou afro-descendant va peut-être être recruté dans un processus de création ou dans un projet artistique par sa couleur de peau pour respecter le quota de diversité. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment une démarche d'inclusion. Mmh. Des artistes issus d'origines diverses ou même de corporéités diverses ou même de styles de danse diverses. Et quand on revient à la structure des établissements scolaires en danse, il y a très peu de diversité dans le corps enseignant. Donc très peu de représentativité, mais notamment aussi les interprètes en danse qui sont reconnus à Montréal, par exemple, dans certains milieux, sont très peu issus de la diversité également. Pendant 6 ans, j'ai vu énormément de pièces de danse et la diversité de corps, la diversité de culturelle était très, très, très peu représentée, sous-représentée. Le modèle qui se passe, enfin, le manque de représentativité, comment ça peut teinter un jeune interprète de la relève de dire, bah, moi aussi, j'ai la capacité, je peux atteindre ces scènes-là, je peux me visualiser sur du long terme. Et donc, toute cette sphère-là, que ce soit au niveau corporel, au niveau représentativité, au niveau diversité, peuvent être des freins, notamment à un succès ou tout simplement à un désir d'arriver dans ces sphères-là. Parce qu'il y a bien sûr, il y a 2 enjeux. Il y a les sphères des danses dites plus élitistes, donc comme le ballet ou les danses contemporaines qu'on va résumer peut-être à des danses dites blanches. Et on va avoir les danses soi-disant un peu plus populaires ou mainstream, on va dire, donc les danses dites urbaines ou les danses de rue ou par exemple les danses, des danses un peu plus traditionnelles. C'est comme s'il y avait une scission entre ces deux univers-là. Et le lien commence à se faire tranquillement, mais il y a encore un effort à fournir. Quand je parle d'effort, c'est autant au niveau des institutions scolaires d'insérer dans leur programme scolaire, en fait, plus d'une diversité de danse, une diversité d'enseignement, une diversité de corps. Et ça commence par les enseignants.
En fait. Justement, parlons des enseignants. C'est quoi la problématique avec les enseignants? Est-ce que, à quelque part, leur incapacité de comprendre l'autre est à la base du constat que vous avez pu faire?
Oui. Je pense tout simplement il y a une histoire. Il y a une histoire. C'est-à-dire que des enseignants ont suivi une certaine formation avec une idéologie, une philosophie, avec un mouvement qui est fait pour un certain type de corps. Et donc, quand ils vont, je dis pas qu'ils ou elles vont, c'est une généralité bien sûr, mais c'est moi, ma perception, c'est l'analyse que j'ai faite durant ces 6 années. Parfois il y a un non-respect du corps de l'étudiant. Et la position hiérarchique de l'enseignant versus l'étudiant crée un rapport de force, en fait, un rapport de pouvoir qui peut tenter l'étudiant. Dans le sens où si l'enseignant lui transmet l'information, lève plus haut la jambe, mais que l'étudiant dans son corps n'est pas apte à lever la jambe encore plus haut par rapport à la stéatopygie, par exemple, ou une ouverture des hanches beaucoup plus petite, ça va jouer sur l'estime de soi de l'étudiant. Donc, ça va avoir un impact, en fait, sur son apprentissage. Et c'est là tout l'enjeu. Donc, peut-être, puisque l'idéal, ce serait d'avoir des pistes de solutions, pourquoi ne pas former des enseignants qui ont reçu une certaine culture à plus de diversité, avec une vision plus inclusive. Mais en même temps, ça veut dire que les personnes décideuses dans les sphères de décision doivent aussi intégrer dans leur structure scolaire ou dans leur organisme une vision inclusive par des politiques, par l'embauche de professeurs autres que ballet ou contemporain. Malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement plutôt, ce n'est plus la norme. La danse avec un grand D majuscule, elle peut être une référence, toutes les danses peuvent être une référence dans les systèmes scolaires pour avoir une meilleure diversité sur le marché du travail de secteur artistique et culturel.
Et vous vous posez plusieurs question. Entre autres, y aurait-il une vision d'un corps standard qui se perpétuerait dans nos institutions? Existerait-il une hiérarchie des corps? Existerait-il une hiérarchie des danses? On en a parlé au tout début. Mm-hmm. Mais qu'en est-il de la diversité dans le corps enseignant des établissements d'enseignement? Et cela a-t-il un impact sur la représentativité de l'hétérogénéité des corps chez les étudiants? À tout ça, vous répondez quoi?
Je me dis que aujourd'hui encore, même malgré la pandémie, il y a encore énormément de travail à faire. Et notamment, ce serait intéressant d'ouvrir la réflexion, notamment autant par rapport aux chorégraphes, par rapport aux interprètes en danse, par rapport aux enseignants, de réunir les acteurs du milieu, que ce soit dans le secteur professionnel ou enseignement, ou même de la recherche, parce qu'il y a quand même un secteur de recherche dans le secteur de la danse, dans le milieu de la danse, ben justement de questionner le rapport au corps, la vision de l'enseignement, et considérer de plus en plus une différence, en fait, et que la différence peut être une force, peut apporter une autre vision, mais pour ça, il y a un travail de fond à faire. Est-ce que les gens sont prêts à le faire? Je ne sais pas. Je peux pas répondre, mais aujourd'hui, il est évident qu'il faut laisser aussi, et c'est là où il y a aussi l'enjeu de l'accessibilité aux salles de spectacle. Pourquoi les spectacles de danse en danse urbaine n'est pas le même accès que les danses dites plus élitistes comme le ballet ou la danse contemporaine? Il y a vraiment cet enjeu-là de s'arrêter un moment et de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à l'interne de notre structure pour faire des changements concrets?
D'accord. Et vous proposez quelques pistes de solutions. Mais avant de les voir, et vous énumérez quelques exemples de commentaires de danseurs. Et racontez-nous deux ou trois anecdotes.
Certainement. En fait, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir des témoignages de danseurs qui sont passés par des institutions. C'était toutes des danseurs et danseuses afrodescendants. Et tout simplement, il y a souvent le rapport au corps. Oh, de toute façon, c'est dans tes gènes, tu peux sauter plus haut. Donc, souvent, on animalise, en fait, c'est presque du fétichisme, en fait, du corps noir, des danseurs noirs. Où je prends l'exemple récemment de Ingrid Silva, qui est une magnifique danseuse d'origine brésilienne, noire, et qui danse pour le ballet de Harlem. Mm-hmm. Elle a fait des photos, c'est une ballerine, donc elle a fait des photos à moitié nue, elle est enceinte, mais est-ce qu'une danseuse blanche de ballerine, une ballerine enceinte, aurait fait les mêmes types de photos? De la nudité, montrer le corps de la danseuse, ça ne s'est pas vu, ça n'a jamais été fait à ma connaissance à date. Donc, je questionne pourquoi le corps des danseurs ou danseuses noires est mis de l'avant de cette manière-là. Des danseurs m'ont témoigné aussi. Souvent, il y avait en danse, on parle de pôle ciel et pôle terre, c'est notre rapport au sol. Et souvent, on demandait à d'autres danseurs d'être une libellule ou un animal presque enchanteur, alors que quand il s'agissait d'un élève afrodescendant, on parlait de gorille. On faisait le lien avec le singe, avec cet animal qu'on compare souvent aux personnes noires. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que même dans la vision de l'enseignement, même dans le rapport avec les professeurs, il y a une problématique déjà de base. Ou, par exemple, les pieds, chacun a une flexibilité du pied qui est différente. Si l'étudiante, parce que beaucoup de personnes afrodescendantes ont souvent des pieds plats, je fais bien sûr une généralité, mais ça veut dire que dans la flexibilité du pied, dans la malléabilité du pied, la personne ne pourra pas pointer autant qu'une personne qui n'a pas les pieds plats. Donc tous ces enjeux-là, ça commence aussi par les livres les livres qu'on apprend, qu'on transmet dans le système de l'éducation, les références, les sources. Il existe très très peu de livres anatomiques, je n'en ai pas trouvé après quelques recherches, qui parlent d'une diversité d'une hétérogénéité de corps, que ce soit le bassin, les hanches, les pieds, le rap, et ça, c'est un enjeu, ça commence par là, ça commence vraiment par là. Donc, beaucoup de danseurs avaient beaucoup de choses à dire, et malheureusement ou malheureusement, il y a eu cette opportunité de pouvoir s'exprimer, mais je pense qu'il y a encore énormément à faire aujourd'hui.
D'accord. Alors, parlons justement de quelques pistes de solutions et probables.
Oui, ça commencerait par la formation. En toute honnêteté, je pense que il y a une dimension qui s'appelle équité, diversité et inclusion. Mm-hmm. Ça pourrait s'appliquer complètement au secteur de la danse, en fait. Par exemple, ouvrir une table ronde avec des danseurs afrodescendants, avec des chorégraphes, des enseignants, même des décideurs d'organismes ou de d'institutions scolaires pour ouvrir la discussion. Et l'idée étant bien sûr d'être à l'écoute des personnes concernées pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Je reste persuadée qu'un échange collaboratif peut être la solution. Mais il faut laisser de la place aux personnes concernées, donc aux danseurs et aux danseuses afro-descendants.
Et comme autre solution, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à tout ça? Il y a la formation de l'enseignement, de l'enseignant.
Donc de la sensibilisation, mm-hmm. ça c'est certain. Mais il y a une autre option, comme le Black Dance Theater, c'est en Angleterre, pardon, et aux États-Unis, ce sont des ballets qui ont ouvert leur propre école de danse, comme Alvin Ailey, par exemple, à New York, dans les années 50, qui a ouvert sa propre école avec cette vision universelle de la danse, mais en laissant l'espace et la place à des danseurs afrodescendants, des chorégraphes, des artistes du secteur des arts vivants de la danse, comme Zab Mabongou, comme Sheran Figaro, c'est une piste aussi à investiguer.
À investiguer. Alors, faisons une chose. Hein, et j'aime bien donner des devoirs. Et si on créait ce panel pour discussion publique? Hein? À la radio.
Je trouve que c'est une excellente idée.
Bon, on travaille là-dessus et puis ensuite on dit, parce que je trouve le sujet extrêmement fascinant et je tiens absolument à vous dire un grand merci d'avoir accepté de nous parler de ce sujet et encore qui est à la fois délicat, inabordé par plein de gens et que beaucoup de personnes ignorent aussi la réalité des corps noirs en danse et particulièrement en danse classique. Merci beaucoup, Chloé Saint-Esprit, et à bientôt.
À très bientôt, Henri. Bonne journée. Au revoir.
Merci, pareillement.